Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux Hommes indiens de Guyane. À l'ordre du jour ce soir, que provoque la résurgence de la mémoire amérindienne en Guyane? Pendant 4 semaines, le mardi, le temps du débat s'attachera au débat qui naît et qui prospère dans les Outre-mer. La semaine prochaine, nous poserons la question du chlordécone aux Antilles, puis nous aborderons l'après-référendum en Nouvelle-Calédonie avant de revenir à la situation de Mayotte. Pour débuter cette série, alors que le ministre délégué des Outre-mer arrive aujourd'hui en Guyane, le temps du débat s'intéresse ce soir à une histoire peu connue en France métropolitaine, celle des écoles religieuses qui, depuis les années 1930, ont scolarisé des enfants amérindiens tout en les évangélisant et en les séparant de leur culture d'origine. Une situation racontée dans un livre publié l'automne dernier aux éditions Anacarsis, livre qui a lancé un vif débat en Guyane, en particulier lors d'un grand conseil coutumier en décembre dernier, débat qui rebondit avec la proposition de créer à ce propos une commission vérité et réconciliation. Nous en parlons avec nos invités. Hélène Ferrarini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous êtes donc autrice de ce livre « Allons enfants de la Guyane, éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République ». C'est chez Anacarsis et c'est publié depuis l'automne dernier. Avec nous également, peut-être à distance, est-il avec nous, Jean-Victor Castor? Il n'est peut-être pas encore arrivé. C'est le député de la première circonscription de Guyane. Il serait avec nous d'ici peu de temps. Jean-Pierre Massias est en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et président de l'Institut Louis Joanet. Et vous plaidez justement pour cette commission vérité et réconciliation. Enfin, troisième invité, Christophe Yanouana Pierre. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du mouvement Jeunesse autochtone de Guyane et membre du Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens et Bushinengue.
Je pense l'avoir très mal vécu parce que si j'ai aucun mémoire avant l'âge de 8 ans, c'est que j'ai dû être traumatisée. Ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas pouvoir discuter librement et correctement avec ma langue parce qu'on nous empêchait de parler notre langue. Il fallait absolument parler le français. J'ai appris à parler leur langue. J'ai appris à écrire. J'ai appris l'histoire de France, pas de la Guyane. J'ai appris la géographie de la France, pas de la Guyane. J'ai appris nos ancêtres les Gaulois et on a oublié nos ancêtres à nous. Donc pour ça, oui, j'ai beaucoup de regrets.
C'est un extrait du reportage Guyane, le scandale des Hommes indiens qui a été diffusé le 12 décembre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois, sur Outre-mer la première, avec le témoignage de Kadina Johannes, ancienne pensionnaire du Home de Saint-Laurent-du-Maroni. Elle avait 4 ans lorsqu'elle a été arrachée au foyer familial. De votre côté, Christophe Yanouana Pierre, vous n'êtes pas passé par les Hommes indiens, justement, de Guyane, mais comment avez-vous découvert l'existence de ces Hommes et comment vous l'a-t-on raconté?
Alors là, les Hommes indiens, enfin, c'est pas comme ça véritablement qu'on en parlait. Et moi, je l'ai découvert surtout dans le cadre familial. C'est ma mère qui m'en parlait. Puisque pour elle, au tout début, quand nous étions des enfants agités et indisciplinés, c'était une solution qui malheureusement n'existait plus à notre époque, quoi. Donc c'est comme ça qu'elle en parlait au tout début.
Vous voulez dire une solution avec des sévices corporels, c'est cela?
Non, pas nécessairement, mais un endroit où on était loin de la famille.
D'accord.
Où on nous apprenait la discipline à la catholique, où c'était assez militaire. Et où on était tous en uniforme. Il faut quand même rappeler que dans ces homes, les enfants n'étaient pas appelés par leur prénom, mais ils avaient tous un numéro. Donc ma mère, par exemple, elle me racontait qu'elle avait le numéro 16.
La liaison est très mauvaise, Christophe Yanouana Pierre. On va vous reprendre dans un instant. Et vous, Hélène Ferrarini, quand avez-vous entendu parler de ces histoires de Hommes indiens? Ça remonte déjà presque une dizaine d'années, en fait.
Exactement, c'est en travaillant avec Alexis Tchouka, qui est un juriste et militant autochtone de Guyane, sur un premier livre qui s'appelle « Petit guerrier pour la paix », qui est un livre d'entretien dans lequel Alexis raconte son parcours. Et il a lui-même été pensionnaire au Home de Mana dans les années 60.
C'est le premier des Homes qui a été créé dans les années 30.
C'est ça, c'est le plus ancien homme de Guyane qui se trouve dans le bourg de Mana où était implantée une congrégation de religieuses depuis le 19e siècle. Et dans le livre Petit guerrier pour la paix, on parle en 2-3 pages du passage d'Alexis dans ce pensionnat catholique. Et suite à la publication de ce livre il y a 5 ans, on a réalisé qu'en fait, il n'existait quasiment rien sur l'histoire de ces Hommes indiens et qu'il y avait un vrai besoin d'histoire.
Alors il y avait une anthropologue qui avait fait un mémoire de Master 2 qui s'appelle Françoise Armand Bourville qui a travaillé sur ce sujet, qui a été publié il y a une dizaine d'années. Et il faut peut-être expliquer à nos auditeurs qui n'ont jamais entendu parler des hommes indiens ce dont il s'agit. Ce sont donc des pensionnats dans lesquels on s'installe, donc on va chercher où s'installent des Amérindiens qui sont trop éloignés parce qu'il n'y a pas de collège, il n'y a pas d'école près de chez eux, et qu'on amène donc dans des villes un peu plus importantes pour pouvoir les enseigner dans un mélange un peu particulier, puisque ce sont des pensionnats religieux dans une république, à partir de la départementalisation en particulier en 1946, et le préfet donne soin ou donne ses enfants à être pour qu'ils soient éduqués dans ces pensionnats catholiques, c'est ça ?
C'est tout à fait ça. Lorsque ça se met en place dans les années 30, c'est assez rudimentaire. En fait, les religieuses et le prêtre catholique groupent des enfants amérindiens des villages environnants qui se trouvent à quelques heures de pirogue chez eux, au presbytère ou dans la maison des sœurs. Et ces enfants donc vivent chez les religieux, puis ce système s'institutionnalise après la départementalisation de 1946.
Jean-Pierre Massias, vous êtes juriste, professeur de droit public à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous êtes président d'un institut qui s'appelle l'Institut Louis Joanet. Vous travaillez beaucoup sur les questions de réconciliation, de commission, vérité et réconciliation, en particulier en Centrafrique, par exemple, ou dans des pays nombreux, variés. Vous avez à peu près couvert une partie de la planète avec votre institut. Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de la Guyane et de ce qui s'était passé dans ces hommes indiens depuis les années 30 jusqu'à nos jours ?
Alors, ce qui m'a intéressé, c'est, en lisant le livre d'Hélène Ferrarini, c'est l'analogie qu'on pouvait faire avec d'autres pays qui ont connu des phénomènes tout à fait comparables. Le Canada, avec la fameuse histoire des pensionnats autochtones, les États-Unis, l'État du Maine, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États du Nord de l'Europe, qui ont vu des commissions vérité s'ouvrir pour les populations Sami. Et donc, on voit bien que ce genre de pratiques éducatives et politiques qui consistent à mettre des enfants autochtones dans des pensionnats pour les rééduquer ou pour les transformer d'un point de vue culturel, a donné lieu de manière quasi systématique aujourd'hui à la mise en place de commissions vérité et réconciliation qui ont parfois fortement ébranlé le système politique. Je pense notamment au Canada, puisqu'il y a eu plusieurs commissions qui se sont enchaînées. Et donc cette analogie-là m'a paru intéressante en termes, je dirais, de questions qui se posaient. Et pourquoi la France ne mettrait-elle pas la même solution que les autres grandes démocraties occidentales sur ces questions-là ?
Est-ce qu'on a déjà mis en place un type de commission vérité et réconciliation en lien justement entre la métropole et les anciennes colonies ?
Alors directement non, mais il y a quand même deux éléments qu'on pourrait noter. C'est le premier, c'est la commission qui a été mise en place sous l'autorité de Philippe Vidal pour les enfants de la Réunion, quand ils étaient déportés en Creuse.
On a appelé aussi les enfants de la Creuse.
Exactement, oui, tout à fait. Et la deuxième chose, même si c'est un peu plus éloigné, c'est la commission qu'a présidée Jean-Marc Sauvé sur les violences sexuelles en l'Église, où on a vu que dans ces cas-là, dans deux situations en France, c'était mis en place des commissions qui ont fait le travail d'une commission vérité, même si officiellement, elle n'était pas désignée de cette manière-là.
Alors, qu'est-ce qui explique, vous êtes revenu avec nous, je crois, Christophe Yannouana-Pierre, qu'est-ce qui explique que cette question n'ait pas été abordée plus tôt, on voit que c'est assez récent le débat autour de ces hommes indiens, y compris dans la société guyanaise. Est-ce que, d'une certaine manière, ça ne faisait pas débat, ça n'était pas une question importante ?
Bah écoutez, dans la société guyanaise, de toutes les manières, jusqu'à récemment, tout ce qui concernait les peuples amérindiens, les peuples autochtones, était d'une manière générale ignoré, méconnu, voire méprisé. Donc, ce n'est que récemment que, quelque part, on occupe la scène politique ou la scène publique d'une manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus intense. Et que petit à petit, même les villages et les générations d'aujourd'hui, vu qu'ils ont repris un certain flambeau de résistance et de militantisme, ça interroge sur ce qui a été fait avant.
Et donc, c'est une sorte
de... Comment on en est arrivé là?
C'est donc, d'une certaine façon, nous avons titré cette émission sur la résurgence de la mémoire amérindienne. Il s'agit bien d'une résurgence comme d'une sorte de rivière souterraine qui reviendrait à la surface, c'est cela?
C'est cela, c'est qu'à partir du moment où on commence à effleurer le militantisme autochtone, c'est-à-dire qu'on va se pencher sur la question de la terre, sur la question de la transmission, etc., et qu'il y a là-dessus, par contre, un voile... et quelque part un rouleau compresseur qui déstructure tout et qui détruit la cellule familiale à l'époque traditionnelle, qui sont les hommes indiens.
Oui, c'est ce que...
Donc,
c'est ce
et que... aujourd'hui...
Oui, c'est ce que dit quelqu'un qui est présent dans le livre d'Hélène Ferrarini. Tu sais ce que c'est une paralysie de la bouche ? Honteux mutisme. C'est ce que dit une des personnes qui est interviewée dans ce livre. C'est-à-dire, c'est cette idée que au bout du compte, on n'en parle pas parce que, on considère que soit c'est une honte, soit au contraire que c'est un bienfait. Parce qu'il y avait aussi des Amérindiens qui peuvent dire à un moment, tout compte fait, ça nous permet d'accéder au monde entier par rapport à la culture mondiale d'une certaine manière. Donc il y a des attitudes ambivalentes autour de cette question, Hélène Ferrarini.
Oui, il faut rappeler que c'est quelque chose qui a été imposé, qui a été vécu comme étant absolument obligatoire pour les familles et les enfants. Et ceci étant donné, certains enfants ont subi leur passage au homme, d'autres s'en sont accommodés, et enfin certains s'en sont servis. Mais cette gamme de réactions, elle peut se retrouver chez une même personne qui va avoir d'énormes regrets d'avoir perdu sa langue et en même temps qui est consciente qu'elle a pu forger son militantisme par l'accès à l'école qu'a permis le pensionnat. Et donc on trouve un petit peu tous ces sentiments que suscite Léon.
C'est ce que dit d'ailleurs Alexis Thioquin, ce regret dans la préface à votre livre, quand il dit « ce qui me manque le plus, c'est d'être à l'aise dans la forêt ». Il a perdu cette aisance d'une certaine manière en passant par les Indiens. Vous êtes avec nous, Jean-Victor Castor ?
Oui, c'est parfait, je suis avec vous.
Bonsoir, vous êtes député de la première circonscription de Guyane. Comment avez-vous eu aussi vent de cette histoire des Amérindiens et surtout, comment avez-vous vu surgir dans le débat politique et public en Guyane cette question relativement récemment, même si auparavant il y avait plusieurs personnes qui s'en étaient saisies. Ça devient un véritable débat depuis, en particulier, la publication du livre d'Hélène Ferrarini.
Enfin, pour moi, c'est tout à l'honneur donc des peuples autochtones eux-mêmes qui ont bien sûr à l'issue de la rencontre avec Madame Ferrarini, qui ont pu mettre en lumière ce sujet. Alors bien sûr, on entendait parler par-ci par-là, mais là, c'est il y a vraiment une démarche qui est engagée. Puis, comme disait tout à l'heure Christophe, ça s'inscrit aussi dans une démarche plus générale de réveil autochtone. Et moi, je le dis souvent, il faut, que, y compris dans la communauté guyanaise, dans son ensemble, que l'on admette qu'il y a vraiment une avant-garde qui est menée par les autochtones. C'est pas parce qu'on est minorisé dans un territoire qu'on perd sa légitimité et qu'on perd son droit à la parole. Et moi, je pense qu'il y a encore bien d'autres choses qu'on va découvrir sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Et la question des Amérindiens, non seulement ça perdure, parce qu'il en existe encore au moins un, mais il y a aussi, moi je viens de lire, je suis assez outré, de la réaction de l'évêque, qui a écrit donc récemment un article sur le journal France-Guyane, où c'est le déni total. Et je pense qu'on aura beaucoup à faire encore. C'est une bataille qui sera assez longue.
On parle à l'instant même du Grand Conseil coutumier. C'est ce qui vient d'être évoqué par Jean-Victor Castor. Quel est le rôle de ce Grand Conseil dans l'émergence de cette question et peut-être la manière de le porter devant l'opinion publique, puisque Jean-Pierre Massias, je crois que vous avez travaillé avec ce Grand Conseil coutumier en tant que juriste.
Alors j'ai travaillé avec eux et je travaille encore avec eux puisqu'ils m'ont donné une lettre de mission récemment pour réfléchir à la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation. Je crois que c'est un organe d'avenir qui ne joue pas encore le rôle qu'il pourrait jouer s'il avait une autonomie institutionnelle, s'il était un établissement public ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un organe qui a repris, et c'est, je crois, à son honneur, ce débat, mais qui s'inscrit au fond dans ce que vous évoquez tout à l'heure, c'est-à-dire cette prise de conscience par la société qu'on va retrouver une mémoire qui a longtemps été enfouie, mais qui va revenir à la surface. C'est le cas très souvent dans les processus de justice transitionnelle. Et c'est vrai que c'est un peu choquant. On a tous l'image d'une Guyane tranquille où on boit une caipirinha sur la plage. Mais en même temps, on voit aujourd'hui que dans cette société-là, émergent des forces, émergent des nouveaux débats. Et ces débats peuvent apparaître étroits. Le problème des Amérindiens, ce n'est pas un problème extraordinairement développé en termes de nombre. Mais si l'entrée apparaît étroite, la voie de sortie apparaît plus large. C'est-à-dire qu'au-delà des... au travers des Amérindiens, vont se poser des questions beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus globales.
Une des questions que l'on se pose et qui est étonnante quand on ne connaît pas cette situation auparavant, Hélène Ferrarini, c'est pourquoi la République confie-t-elle d'une certaine manière ses enfants amérindiens à des ordres religieux? Ces ordres religieux ont pour vocation d'évangéliser. D'ailleurs, dans votre livre, on voit qu'une des premières sœurs dit « c'est par cette jeunesse très attachante que l'on pourra introduire avec succès le christianisme dans cette région ». Donc il y a vraiment une volonté d'évangélisation. On a gardé peut-être un peu naïvement en tête l'idée que la République, évidemment, séparait la religion catholique de la vie publique d'une certaine manière. Là, ça n'est pas le cas, puisqu'on confie donc à ces religieux ces enfants.
Pour comprendre les hommes indiens, il faut avoir en tête qu'en Guyane, la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas. Donc, elle aurait pu s'appliquer à partir de 1946.
Et de la départementalisation.
Qui est censée être un temps de mise à égalité législative entre les départements de l'Hexagone et les nouveaux départements d'outre-mer qui étaient des colonies, comme la Guyane qui est une colonie française depuis le XVIIe siècle. Mais le choix a été fait de conserver l'ancien fonctionnement qui date du 19e siècle et qui prévoit la rémunération des prêtres catholiques sur fonds publics.
Ça explique justement ce que dit dans le journal récemment l'évêque de Guyane, Alain Rancé, qui était cité à l'instant même c'est dans France-Guyane, Jean-Victor Castor. Il dit, cet évêque de Guyane, les sœurs donnent leur vie gratuitement. Elles reçoivent du gouvernement une subvention pour faire tourner l'internat en matière de nourriture, d'électricité et d'eau, mais guère plus. Ces religieuses n'ont pas fait d'études sur les cultures autochtones. Elles transmettent l'éducation qu'elles ont reçue. On n'est pas en 2022 à l'époque. On fait la prière avant le repas. On socialise, on apprend les bonnes manières, puis l'étude le soir avec un accompagnement des sœurs pour faire les devoirs. C'est l'éducation à la française. Avec ces conditions, les enfants du home avaient les meilleurs résultats.
On n'est pas en 2022 et pourtant en 2023, encore aujourd'hui, les sœurs qui s'occupent du dernier homme indien en activité à Saint-Georges de l'Oyapock font faire la prière aux enfants dont elles ont la responsabilité. La messe est obligatoire le dimanche matin et les sacrements sont vivement recommandés, quasiment imposés.
Oui, Jean-Victor Castor, est-ce que vous, en tant que député de la République, cela vous choque encore d'entendre cela dans le contexte contemporain, pourrait-on dire, où les questions de laïcité sont généralement très débattues et rebattues, pourrait-on dire, dans la société française?
Ben, en fait, moi, je reviens de la Martinique, où il y avait donc justement un colloque sur l'accès aux droits et les questions d'identité, et notamment par rapport aux questions autochtones. En fait, pour moi, il y a de la chute dans les idées. Donc, on peut pas faire croire que finalement ce n'était que de la bienveillance. Non, il s'agissait vraiment de déposséder totalement donc des communautés entières. Et bon, les peuples autochtones font partie des victimes, mais à l'échelle de ce qui s'est passé, par exemple, sur l'ensemble des Amériques, hein, ce qui s'est passé au Canada, ce sont les mêmes principes. Et il me semble que tout à l'heure, on a parlé des enfants de la Creuse. En fait, il y a cette idée constante de, bon voilà, c'est nous qui... Il y a une civilisation, il n'y en a qu'une, et puis les autres, eh bien, on va les pacifier, on va les évangéliser, enfin, etc. Donc, il faut être très clair. Et c'est pour ça que l'article, la prise de position de l'évêque, c'est une prise de position qui est pour moi scandaleuse, déplacée.
Est-ce que vous êtes...
À mettre en lumière des choses, et puis voilà, on revient toujours à essayer de contextualiser des choses qui ne sont pas acceptables humainement.
Est-ce que vous êtes satisfait en tant que député d'une prise de position récente, je crois, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, qui disait « Le défi, c'est de former et scolariser des jeunes enfants de territoires isolés sans pour autant annihiler leur culture et leur histoire », c'est-à-dire d'une certaine manière, en revenant en arrière par rapport à cette volonté à la fois d'évangéliser, de donner la culture française, de couper de leurs racines ces enfants amérindiens. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe Yanouana? Pierre, vous êtes encore avec nous au téléphone?
Je suis toujours là.
Oui. Qu'est-ce que vous pensez justement d'une déclaration comme celle-ci, telle que celle de Yael Braun-Pivet? Est-ce que c'est justement quelque chose qui prend en compte, peut-être de façon récente, mais en tout cas plus importante, les revendications que vous portez en tant que porte-parole du mouvement Jeunesse Autochtone de Guyane?
J'ai quelque part envie de dire que les déclarations, ce n'est pas ce qui manque. ce qui manque véritablement, ce sont les actes. Et là, pour simple exemple, on a organisé au niveau du Grand Conseil coutumier tout un séminaire et un colloque sur ces questions-là. On a invité le ministre Carinco ou bien son cabinet qui était également convié. Ils ont préféré aller voir une fusée qui décolle que de se pencher sur ce genre de questions-là.
Donc,
puisqu'il arrive aujourd'hui en Guyane, peut-être va-t-il prendre en compte justement cette discussion, ce débat public qui s'est ouvert autour de ce livre et de cette question, non?
L'avenir nous le dira. En tout cas, il y a par exemple une réunion sur le foncier qui se fait demain. Les représentants autochtones ne sont pas conviés autour de la table. Donc, encore une fois, il y a ce qu'on déclare pour faire joli dans les médias et ce qu'on fait. Donc moi, je ne suis pas en train de condamner ou de dénoncer. Je suis juste en train de dire que si seulement on pouvait passer de la parole aux actes, ce serait une bonne chose parce que c'est de l'ordre à la fois du passé très contemporain, mais encore une fois, c'est également le présent qui compte dans cette affaire-là, puisque les répercussions des hommes indiens, qui ne sont pas totalement fermées, il y en a encore aujourd'hui. Et la fin des hommes indiens ne signifie pas l'amélioration de l'accueil, de l'accompagnement, de l'éducation des jeunes Amérindiens. Ça ne signifie pas du tout ça. Donc en fait, il y a énormément de questions à la fois d'histoire contemporaine, de répercussions sociales encore aujourd'hui, que je parlais tout à l'heure de la déstructuration de la cellule familiale. La plupart des parents n'ont pas appris de leurs parents à comment élever des enfants. Donc à la fermeture des hommes indiens dans les années 80, c'était OK, maintenant, en fait, vous allez être responsable de vos enfants. Vous êtes dorénavant des citoyens français comme les autres. Donc, élevez vos enfants. Mais par contre, pendant plus de 50 ans, on a privé les enfants des adultes de leur communauté. Et ça, ça a des répercussions encore aujourd'hui, puisqu'il y a des phénomènes de violence dans les familles, du décrochage scolaire, de la perte de repères, du mal-être, etc.
Vous écoutez Le Temps du Débat. Nous posons cette question dans une série de 4 émissions qui seront tous les mardis dans Le Temps du Débat consacrées aux Outre-mer. Que provoque la résurgence de la mémoire amérindienne en Guyane?
En Guyane, le peuple Kalina, qui compte 3000 représentants, transmet encore son histoire et ses coutumes. Chaque village amérindien est dirigé par un chef coutumier. Cécile Kouyouri est la première femme devenue chef coutumière de son village. Couturière de formation, elle est désormais représentante de la loi, de la sagesse et porte-parole de sa communauté vers l'extérieur. Un privilège jusque-là réservé aux hommes.
Ben, le chef coutumier, c'est déjà le gardien du village et l'identité d'un peuple autochtone. Il est aussi le garant des coutumes, des traditions, de la langue maternelle, du savoir-faire.
Un mode de vie qui survit grâce aux chefs comme Cécile. Le peuple Kalina s'adapte à son temps en conservant son identité.
Moi, on m'a dit que je faisais partie d'un peuple primitif. Mais j'en étais fière quand la personne m'a dit ça. Je suis très fière de ce que je suis. J'ai vécu en ville, mais je ne me vois pas vieillir en ville. J'aime mon village. Je suis bien dans mon village. Donc ça prouve qu'un peuple autochtone en Guyane existe vraiment, qu'il a toujours occupé la terre de la Guyane, avant Christophe Colomb et après Christophe Colomb.
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Extrait choisi d'un reportage diffusé en juin 2020 sur France 3 dans l'émission Témoins d'Outre-mer, qui est allé à la rencontre de la chef coutumière Cécile Kouyouri. Effectivement, on disait que c'était des primitifs. D'ailleurs, ça a été inscrit dans les textes, puisqu'il y avait un service des populations primitives. En vous lisant, j'ai découvert ça, fondé par le préfet Vignon en 1946, qui nommait d'ailleurs le père Lelay délégué préfectoral de la Basse-Mana, cette région littorale, donc où le premier homme indien avait été créé dans les années 30, Hélène Ferrarini.
Oui, en s'intéressant à l'histoire de la Guyane, on réalise effectivement que les autorités publiques et donc le préfet et la préfecture à partir de 1946 s'appuient vraiment sur le clergé catholique pour administrer et les populations et les lieux.
On est très loin quand même effectivement de cette idée de séparation de l'Église et de l'État. Cette question aussi est reliée à ce que vous voulez mettre en place, Jean-Pierre Massias, c'est-à-dire en discutant avec le Grand Conseil coutumier cette question d'une commission vérité-réconciliation, parce que il s'agit vraiment de réconcilier l'histoire, d'une certaine manière, d'aller chercher dans l'histoire la manière dont on pourrait justement, sinon réparer, en tout cas discuter de ce passé qui a été enfermé à double tour.
Tout à fait. C'est une réconciliation à la fois entre les communautés, et c'est une réconciliation avec la réalité, avec la vérité. D'ailleurs, les réactions qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la réponse en disant « mais les sœurs étaient bienveillantes et c'est de l'anachronisme de juger en 2022 des choses qui se passaient en 1930 », c'est des réponses très classiques de gens qui, au fond, n'ont pas conscience de ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que les commissions canadiennes ou américaines, elles ont conclu à des génocides culturels, à l'idée de la destruction d'un groupe humain par la destruction de sa culture, ce qui est extrêmement grave. Et je crois que c'est ce choc-là qu'il faut dépasser entre, d'un côté, des gens qui vous disent bah, « les victimes ne sont pas prêtes, vous allez créer des problèmes », et accepter que l'idée qu'une commission vérité, au fond, c'est un mécanisme non seulement qui va permettre de faire la vérité, mais qui va surtout permettre de mettre en place un cercle vertueux de prise de parole, de retrouver sa mémoire. La commission vérité, elle va peut-être permettre des débats très importants et des autochtones qui vont commencer à retrouver leur histoire.
D'autant que c'est vrai que c'est assez étonnant, mais on peut rappeler que l'ONU a mis en place une déclaration sur les droits des peuples autochtones il y a maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans, puisque c'était en 2007, et Hélène Ferrarini, et que d'une certaine manière, la France ne semble pas tellement prendre cela en compte pour son propre territoire.
Tout à fait. Et ce que demandent aujourd'hui les Amérindiens de Guyane, c'est avant tout une reconnaissance de ce qu'ils sont, c'est-à-dire autochtones sur la terre guyanaise, une reconnaissance du fait qu'ils sont toujours là, qu'ils considèrent avoir gardé une souveraineté sur la terre. Et donc l'histoire des hommes, c'est aussi un levier pour aborder de manière plus profonde l'histoire de ces peuples.
Ce qui est un peu compliqué, pourrait-on dire, si on pouvait d'une certaine manière mettre cela sur le dos d'une tendance politique, Jean-Victor Castor, on se dirait, ben voilà, c'est la gauche et la droite qui a fait ça. Mais là, en l'occurrence, c'est que tout le monde était plus ou moins mouillé dans cette affaire depuis les gouvernements de gauche jusqu'au gouvernement de droite. J'ai découvert en lisant en particulier Hélène Ferrarini que Jules Mock, le ministre de l'Intérieur, et ses filles avaient dit que la Guyane restait une terre de mission pour les infidèles. Donc c'est assez intéressant effectivement de s'apercevoir qu'un SFIO de l'après-guerre peut être d'accord sur ces questions particulières avec des gaullistes, avec des, pourquoi pas avec des communistes ou d'autres d'une certaine manière. Et cela, c'est assez étonnant parce que dans le coup, tout le monde est pris par cette affaire, Jean-Victor Castor.
Oui, mais de toutes les façons, l'enjeu, il n'est pas là. Christophe le disait tout à l'heure, aujourd'hui, il faut passer des paroles aux actes. Je vous rappelle quand même qu'au moment où on parle des questions environnementales et des enjeux climatiques, les COP, les différents textes pour les différentes COP, eh bien, on voit apparaître la question de l'autochtonie et des valeurs fondamentales dont devrait s'inspirer l'Occident, que portent donc justement les peuples autochtones. Mais la difficulté, c'est de franchir faire le pas, vraiment faire le pas. Et dans les actes politiques, je rappelle quand même que quand on regarde bien, on en parlait tout à l'heure, la question des terres, vous avez des maires qui sont des maires autochtones qui revendiquent jusqu'à aujourd'hui des parcelles de terre pour pouvoir donc installer des personnes. Avoir des équipements publics, etc. Les autochtones, jusqu'à aujourd'hui, il a fallu donc la manifestation de mars-avril 2017 pour qu'il y ait un accord pour normalement la restitution de 400 000 hectares. Et jusqu'à ce jour, au moment où on vous parle, ça date de 2017, rien n'est fait. Et l'État continue, Christophe en parlait tout à l'heure, à utiliser la question donc de la restitution des terres comme un outil de division des populations guyanaises. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça prouve qu'en fait, ils n'ont encore rien compris et que l'intelligence, on va dire, gouvernementale, qu'elle soit de droite ou de gauche, eh bien, voilà, c'est l'État avec son omniprésence et sa façon, on va dire, profondément coloniale qui exerce son pouvoir. Donc le déni, pour moi, il n'y a rien de particulier dans le fait que ces personnes-là, bah, soit on fait du révisionnisme de l'histoire, ou alors on ne reconnaît pas vraiment cet homme.
Pour ce qui concerne le dernier de ces homes, justement, il est sur votre circonscription, je crois, en tant que député, Jean-Victor Castor. Il semble qu'il reste encore une soixantaine, c'est cela, d'élèves amérindiens dans ce home qui n'est pas encore fermé. C'est le dernier de tous les homes indiens de Guyane. Qu'est-ce qui va advenir de ce home? Est-ce qu'il va fermer un jour? Est-ce qu'on va le remplacer par un établissement public, par un internat public? Est-ce que justement tous ceux qui ont fermé ont été remplacés par des internats publics, Jean-Victor Castor?
Déjà, il faut des internats, mais il faudrait déjà aussi qu'il y ait des écoles. Je rappelle qu'à Trois-Sauts, Trois-Sceaux qui est vraiment assez éloigné, donc on va dire, de ce qu'on appelle le centre. Il faut parfois 3 jours de pirogue en saison sèche pour y arriver, mais c'est quand même 1000 âmes, pratiquement 1000 âmes dans ce village. Et du coup, ces personnes-là sont restées pratiquement 2 ans, si je me trompe, avec Christophe, sans école.
Christophe Yanouana, Pierre, sur ce point.
Bah écoutez, sur ce point-là, c'est difficile aussi, parce que aujourd'hui, l'idée reste inchangée, dans le sens où les populations, notamment qui sont dans l'intérieur, se doivent encore de bouger pour accéder à l'éducation, à la langue française, à l'instruction, etc. Le politicien local doivent envisager un parcours de scolarisation au plus près des familles et procéder à la fermeture la plus rapide de ce dernier home indien qui est une honte. Encore aujourd'hui, en 2023.
Vous avez... Allez-y, continuez. Excusez-moi, je vous ai interrompu.
Oui, donc pour moi, c'est... Parce qu'il y a de l'argent public injecté dans ces home indiens. Si aujourd'hui la collectivité territoriale de Guyane ne finance pas ces home indiens, ils ferment et ces enfants-là n'auront plus accès à l'école, puisque depuis très longtemps également, il y a une inégalité sur ce territoire d'accès aux infrastructures publiques, d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Et finalement, dans ce qu'on appelle les Outre-mer, qui sont déjà la deuxième zone, voire la troisième zone de la République et de la France, ben, à l'intérieur même de la Guyane, il y a encore des disparités entre les, selon là où on habite. Donc finalement, pour moi, la commission vérité, ça a également cet enjeu-là de mettre en place un espace où on pourra écouter tout le monde, discuter avec tout le monde et travailler ensemble sur l'amélioration des choses. Parce que pour nous, et là je parle en tant que membre du Grand Conseil Coutumier, ce n'est pas de trouver des responsabilités individuelles, c'est de voir en direct, de manière correcte, ce qui s'est passé, ce qui a été fait à nos communautés et principalement aux enfants d'hier, et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que les choses aillent mieux.
Sur ce point, Jean-Pierre Macias, justement, sur ces façons d'aborder justement ce que pourrait être une commission vérité et réconciliation, j'imagine qu'il n'y a pas un modèle de commission vérité et réconciliation, qu'elles sont toutes différentes. Comment peut-on envisager, à propos de cette question des home indiens, mais aussi de la relégation de certaines des populations qui peuplent la Guyane parce qu'elles sont éloignées des centres, justement cette question de remise en cause de cette égalité qui formellement n'existe pas?
Alors oui, tout à fait, il n'y a pas un seul modèle de commission vérité. Il y a les commissions vérité, elles sont adaptées à leur environnement. Elle repose quand même sur des piliers, les piliers qu'avait notamment dégagé Louis Joinet. Et dans ces piliers, il y a un pilier de la non-répétition. On doit proposer des mesures pour que ce qui s'est passé ne se reproduise pas. Et ce que disait Christophe est extrêmement intéressant, parce qu'au fond, aujourd'hui, on voit bien que même si les hommes indiens ont perdu de leur importance, la situation scolaire, elle est extrêmement mauvaise pour les enfants amérindiens. Et d'ailleurs, de manière très significative, le séminaire qu'on a organisé à l'université de Guyane avec le Grand Conseil Coutumier a été organisé en partenariat avec l'UNICEF. Il y avait 2 ateliers, l'atelier sur les hommes et l'atelier géré par l'UNICEF sur les conditions contemporaines de scolarisation. Et je crois que c'est ça qui est intéressant de noter. C'est qu'une commission vérité, au fond, ça ne fait pas uniquement la vérité sur l'histoire, ça projette l'histoire dans l'avenir et ça va permettre de reposer des questions sur le vivre ensemble, sur la question des suicides, qui est une question très importante dans la jeunesse amérindienne, la question des conditions, au fond, d'hébergement, la question des familles accueillantes, ces familles qui accueillent les Amérindiens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, avec parfois des règles hallucinantes qui consistent à dire, par exemple, un jeune Amérindien dans une famille accueillante, il n'a pas le droit de parler sa langue. C'est inscrit noir sur blanc.
Oui, c'est ce que disait d'ailleurs Alexis Tuka quand il disait il fallait tuer l'Amérindien mais garder l'homme. C'était cela l'idée, c'est-à-dire garder le potentiel de l'homme ou de la femme pour qu'il puisse servir la société en Guyane, mais en même temps il fallait tuer l'Amérindien en lui ou en elle.
Oui, et garder et en faire un potentiel travailleur salarié à même de rejoindre les rangs du prolétariat guyanais. Et ça a été aussi un des objectifs de ces pensionnats assignés par la préfecture, parce que dans les années 50, la Guyane est considérée comme étant sous-développée parce que sous-peuplée. Et donc,
c'est ce que vous expliquez bien dans votre livre. Ouais.
La préfecture décide de faire aussi des Amérindiens des travailleurs salariés pour rejoindre les exploitations forestières, la pêche crevettière ou bien des tâches ménagères pour les femmes, alors que ces populations avaient des modes de vie totalement autonomes, vivriers.
Il faut aussi préciser qu'il y a quelques nègres marrons, comme on les appelait effectivement, bien qu'il n'y ait pas eu de plantation en Guyane même, qui venaient du Suriname et qui se sont installés, qui ont traversé à une certaine époque la frontière, qui se sont installés donc dans la jungle guyanaise et qui ont participé, enfin qui ont été aussi emmenés dans ces hommes indiens. Donc quand on parle de hommes indiens, on parle aussi de ces personnalités-là qui sont beaucoup moins nombreuses que les Amérindiens, mais il faut tout de même le préciser. Un dernier mot, peut-être Jean-Vicent Victor Castor, qu'est-ce que vous attendez au point de vue, pourrait-on dire, légal, puisque vous êtes représentant de la nation en tant que député de la première circonscription de Guyane? Qui va prendre cela en charge maintenant, hormis vous? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un relais, peut-être, dans les institutions de notre pays?
Alors, tout d'abord, je voudrais juste faire une petite rectification. Non, ce qu'on appelle les Bushi Kondesama, ce sont les marrons. Attention, hein, il y en a eu en Guyane, il y a eu des plantations en Guyane, il y a eu du marronnage en Guyane.
J'étais resté sur l'idée qu'il n'y avait pas eu de plantation en Guyane, mais qu'il y en avait au Suriname. Excusez-moi.
Non, ça aussi, c'est un mythe et c'est une forme de révisionnisme au niveau de l'histoire.
D'accord, excusez-moi d'avoir été révisionniste, c'est gentil pour moi. Mais en tout cas, je le regrette, dites-moi.
Non, mais c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à ce
que... Si, non, mais vous avez le droit de le dire, tout à fait. à part cette question-là, qu'est-ce qu'on...
Sur le fond, moi, je pense que fondamentalement, on a la possibilité... En ayant un regard de l'histoire, et c'est ce à quoi ça sert cette fameuse commission d'enfer-réconciliation. Parce que les conséquences, elles sont vraiment dramatiques, et il faut s'en rendre compte. Et moi, je pense que les civilisations des différents peuples autochtones, on doit s'en inspirer. On doit s'en inspirer par rapport à leur rapport à l'environnement, leur rapport à la forêt, leur rapport à l'idée des enjeux de maintenir une vision collective de la vie et non individualiste. Et du coup, moi, je pense que même du point de vue de la philosophie de la vie, on a à s'en inspirer. Maintenant, politiquement, les interventions, elles devront être multiples.
Très vite, on arrive au bout de l'émission. Très rapidement, s'il vous plaît, Jean-Victor Castor.
Moi, je pense que l'enjeu, c'est qu'en Guyane, déjà, qu'on puisse se réconcilier. Il faut faire un pas vers les communautés autochtones, de façon à ce qu'on puisse reconnaître ces populations dans leurs droits.
Merci.
On ne le fera pas. En Guyane, on aura du mal à faire comprendre aux autres.
Merci beaucoup Jean-Victor Castor. Merci à Christophe Yanouana, Pierre qui était avec nous, porte-parole du mouvement Jeunesse Autochtone de Guyane, à Jean-Pierre Macias, professeur de droit public et président de l'Institut Louis Joanet qui plaide pour une commission vérité et réconciliation autour de ces questions, et à vous évidemment Hélène Ferrarini dont le livre nous a donné envie de faire cette émission Allons enfants de la Guyane. C'est chez Anacarsis. Suite de notre émission sur les Outre-mer, mardi prochain, nous évoquerons l'affaire du chlordécone en Martinique. Le temps du débat a été préparé ce soir par Stéphanie Villeneuve, Mathias Mégy, Fanny Richet, Paul Marguier, Cécile Bidot et réalisé par Laurence Malanda avec à la technique Alexandre Dang. Demain, le temps du débat se demandera ce qu'est une bonne retraite. Rendez-vous à 18h20.